Il est 19h et vous êtes bien sur Radio Campus. Vous allez embarquer tout de suite à bord du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin et nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos méninges. Au programme ce soir, l'équipe subaquatique reçoit Anaïs Joyot et Morgane Barra. Vous êtes respectivement chargées d'action culturelle et médiatrice à l'ONPL. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons également Baptiste Gélan, qui est stagiaire au Bar du Quai et qui va nous parler de votre concert de rentrée. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir.
Nous vous diffuserons également une interview de la compagnie Métis réalisée mercredi dernier avant que ces derniers ne s'envolent pour Londres. Camille, elle, nous parlera de musique également pour rester dans le thème. Et comme chaque jour, on commence par un reportage.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il y a quelques semaines, la rédaction a reçu un petit communiqué de presse annonçant la venue dans notre belle ville de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, pour parler évidemment agriculture, mais agriculture connectée. Alors forcément, comme tous les médias angevins, on a envoyé Thibaut, notre reporter, sur place.
Stéphane Le Foll était l'invité d'honneur des premières rencontres de l'agriculture connectée qui se déroulaient à l'ESA le 16 octobre dernier. Sans surprise, la simple présence de la parole politique venue des plus hautes sphères de l'État suffit à rameuter plus de médias que de raisons, nous y compris, comme autant de papillons attirés par la lumière. Si le point presse tenu par le ministre à la suite de son intervention devant un amphithéâtre plein était surtout une occasion de synthétiser ce qui venait d'être dit, Stéphane Le Foll soulève tout de même deux questions, à commencer par l'importance d'une évolution sociale nécessaire.
Dans quelle perspective on devait se placer si on part de cette idée qu'il va y avoir là avec le numérique, des bouleversements et des mutations très profondes. Il faut qu'on garde une stratégie. Pour innover, on va être obligé d'innover dans tous les domaines. L'agroécologie, les défis à relever, et qu'au-delà de la technique et de la technologie, ce qui m'importe et ce que je voulais dire, c'est que derrière, on a besoin d'innover aussi socialement. C'est-à-dire que pour rester maître de toutes ces données potentielles, de tous ces réseaux qui vont peut-être se mettre en œuvre, sûrement même, il faut qu'on soit organisé pour que les agriculteurs en particulier restent les maîtres des choix à faire.
Mais le ministre de l'Agriculture a également évoqué la problématique de la propriété des données récoltées.
Tous ces capteurs qui vont être sur les sols, qui vont donner des indications sur les sols, qui en sera propriétaire? C'est la vraie question. Si vous laissez ça partir et que vous donnez ça à des, je mets ça entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais à des industriels ou à des entreprises qui offrent des services, c'est plus les agriculteurs qui les auront. Ça sous-entendra d'ailleurs que ce n'est plus les agriculteurs qui pourront décider, mais ceux qui auront les données. Donc, il faut qu'on soit capable d'organiser cet accès aux données. Après, chacun peut en faire ce qu'il souhaite, mais il faut surtout éviter une privatisation trop grande de ces données.
Le porte-parole du gouvernement évoque également la mise en commun de ces informations via un projet de centre de données géré par l'État.
Ce n'est pas simplement la question de la propriété, c'est la question de la mutualisation des données qui m'apporte. C'est comment on va pouvoir les partager. Et ça nécessite tout de suite qu'on y réfléchisse. Donc ce qu'on va essayer de faire avec la ferme des données, c'est d'avoir aussi une capacité à ouvrir cette connaissance et cet accès aux données de manière large, pour que ça reste partagé. Parce que c'est ça qui m'importe beaucoup. Dans le partage de toutes ces informations, il y a le partage de la connaissance. Dans le partage de la connaissance, il y a tout le terreau pour favoriser l'innovation et la création.
Au-delà d'un discours bien balisé, ces questions soulevées par les nouveaux outils connectés sont bien d'actualité, comme a pu nous le confirmer Damien, étudiant en première année à l'ESA.
Oui, je pense que ça viendra assez vite. On pourra, dans une dizaine d'années, je pense qu'on pourra commencer à en avoir pas mal dans les fermes. Mais bon, j'avoue que mes parents ont un robot de traite, donc on commence déjà à avoir pas mal de trucs connectés. Donc oui, je pense que c'est l'avenir et que de toute façon, tout le monde y viendra un jour, à un moment ou à un autre.
Si cela fait chaud au cœur d'entendre un membre du gouvernement parler de l'importance de la conservation de la propriété individuelle des données, il est dommage de constater que le discours est bien différent dès qu'on sort du champ économique. Il faut bien rappeler que c'est ce même gouvernement qui a fait passer en juillet dernier la loi relative aux renseignements, loi qui permet à l'État de récupérer massivement et arbitrairement nos données personnelles et dans des conditions de contrôle encore aujourd'hui extrêmement floues.
Anaïs Joyot, Morgane Barra, ça vous fait réagir ce reportage ?
Ben oui, ça pose des questions. C'est vrai que voilà, l'agriculture connectée, comme tous ils ont pu le dire, c'est effectivement l'avenir. Mais voilà, dès qu'on parle connexion, évolution, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment c'est géré, quel cadre est donné à tout ça. Et finalement, quel est l'objectif derrière ? Ce n'est pas forcément clairement dit pour l'instant. Est-ce que c'est pour les agriculteurs ? Est-ce que ce sera pour les entreprises ? Je pense que c'est un peu l'objectif vraiment à définir pour pas que ça parte dans tous les sens et que finalement ça ne profite pas à ceux à qui ça doit profiter à la base, quoi.
Baptiste Gélan.
Je suis plutôt d'accord. C'est une idée plutôt intéressante si ça peut faciliter en fait le boulot des agriculteurs. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là ? Comme tu disais tout à l'heure, où est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Moi, j'ai du mal un peu à cerner tout ça, à vrai dire.
Morgane Barra, ça vous fait réagir que, allez, on va dire ça comme ça, grosso modo, on amène Stéphane Le Foll, on envoie un communiqué de presse, ça sert un peu, en fait, finalement, d'attrape-mouche pour parler d'un sujet qui, a priori, n'est pas très sexy, quoi.
Oui, c'est sûr, mais à la fois, je pense que c'est une bonne chose qu'il se déplace et qu'il soit là quand ces questions sont soulevées. Je pense que si c'est quelqu'un du ministère, c'est le ministre de l'Agriculture qui se déplace pour ça. C'est une bonne chose qu'il soit impliqué et porte-parole de ces réflexions.
Thibaut, tu as réalisé le reportage. Tu l'as senti comment, justement, ça fait un peu attrape-mouche, c'était essentiel. Quelle est ta sensation, toi ?
Sur le fond, c'était très intéressant et ça apportait plein de choses. Après, il y avait plein de spécialistes qui étaient autour aussi. Donc la présence ministérielle, en soi, ça permet d'apporter de la visibilité à l'événement. Après, c'est aussi une opération de com' et à quelques semaines des régionales, ça serait dommage de s'en priver pour eux.
Tu vois ça comme ça, toi, bizarrement. Une petite opération de com', quoi.
Bon, c'est le jeu, ça marche comme ça.
Bon, très bien, ok, soit une opération de com', sans transition, on va se faire une première pause musicale, dans le jargon on peut appeler ça une opening track, on s'écoute Jedi Mantrix avec la chanson Rival the Imminent.
Your famine yet. It's a bunch of shit that I ain't get my hand in yet. Listen, you can't even walk that shit. You got jewels, I will make you come up off that shit. Stupid, I ain't made hodge, but I'ma do it soon. Mama still crack me in the head with a wooden spoon. Come on, dummy, why you do that for? I'm the hacksaw, crack your 2x4, yeah.
Time traveling, swords rattle, we crowd battle. Jackets is full metal, we be throwing them at you. Build you a shrine, have your people make you a statue. That's what happens when disaster comes natural. Time traveling, swords rattle, we crowd battle. Jackets is full metal, we be throwing them at you. Build you a shrine, have your people make you a statue. That's what happens when disaster comes natural. Yo.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Angers, vous êtes toujours dans le sous-marin, nous on est confortablement installés dans le studio autour de la table. Anaïs Joyot et Morgane Barra de l'ONPL sont avec nous, Baptiste Gélan du Bar du Quai est également ici. On commence tout de suite directement avec Anaïs Joyot et Morgane Barra de l'ONPL. Vous organisez le concert étudiant. Ça se passera le jeudi 12 novembre à 20h30 au Centre des Congrès d'Angers. Et ça coûte seulement 2 euros. Alors attention, les places sont uniquement en pré-vente et en pré-vente au cafette et dans les rues également. La première question qu'on s'est posée, est-ce que c'est difficile de faire venir des étudiants à un concert de musique classique, sachant que c'est franchement pas la musique qui tourne en boucle dans leur baladeur MP3?
Et bah effectivement, c'est pas une mission, on va dire, des plus faciles. Après, voilà, c'est pas la tasse de thé des étudiants, c'est pas forcément ce qu'ils ont l'habitude d'écouter, mais c'est une musique qu'il faut connaître, faut oser être curieux, venir à un concert de l'ONPL. On a la chance quand même d'avoir un orchestre national dans notre région, avec des musiciens basés à Angers et à Nantes. C'est un orchestre quand même de renommée nationale. Et voilà, donc ce concert pour 2 euros, c'est l'occasion de venir découvrir ce qu'on fait, de se frotter un peu à la musique symphonique. Et c'est une musique de toute façon qui se vit. C'est des émotions, c'est du live, donc ça donne des frissons, c'est impressionnant sur scène. Et c'est vraiment une expérience qu'on les invite à venir vivre.
Thibaut ?
Alors, vous menez d'autres actions aussi à l'année qui visent les étudiants, ou est-ce que c'est fait de façon ponctuelle à la rentrée, un peu pour marquer le coup ?
Alors, il y a évidemment ce concert-là du 12 novembre, c'est un événement à la rentrée pour marquer le coup, pour leur présenter notre saison, pour leur faire découvrir qui on est. Mais après, c'est une politique aussi qu'on a toute l'année, puisque l'ensemble des concerts de notre programmation, donc de septembre à juin, leur est proposé à 3 euros. Pour ça, il faut venir en fait à 19h30, une heure avant le début du concert, au centre de congrès. Et quand il reste des places, mais c'est toujours le cas, il y a toujours quelques places qu'il reste, on repart avec sa place à 3 euros. Et souvent, en plus, c'est les invendus, donc ça peut être des très très bonnes places pour 3 euros, sachant que chez nous, ça va jusqu'à 32 euros.
Baptiste Gélan, ça vous donne envie quand vous entendez ça ?
Bah oui, forcément. En plus, moi, j'adore la musique classique, donc voilà. Moi, je trouve que c'est une superbe action. À 2 euros en plus, c'est presque rien, c'est presque symbolique. C'est ça qui permet aussi d'ouvrir culturellement les portes à tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment bien.
Alors, Anaïs Joyot, Morgane Barra, comment, mis à part des actions ponctuelles comme celle-ci, comment on peut démocratiser la musique classique ?
Alors, il y a plein de manières de faire. C'est une politique qu'on a à l'orchestre. C'est aussi le rôle, on va dire, du directeur musical et chef d'orchestre de l'ONPL, Pascal Roffet, qui choisit des programmes qui font sens, qui choisit une saison qui parle à tous. Et puis, nous, après, dans nos missions au service de l'action culturelle, on travaille en fait en partenariat avec de nombreux dispositifs existants dans le monde social. Ça part de chartes, par exemple la charte culture et solidarité de la ville d'Angers. C'est des partenariats carte blanche sur la ville de Nantes, la charte régionale Voilà, c'est des dispositifs qui existent et qui font en sorte qu'on puisse travailler et toucher des publics différents. On mène aussi de nombreuses actions au niveau des scolaires, tout niveau, des plus petits jusqu'au là, on parle des étudiants. On va également à l'hôpital. On a une convention en fait signée avec le ministère de la Santé. Et puis, on va également en maison d'arrêt. Voilà. Donc, tout ça, c'est des projets qui font, qu'on construit. Enfin, on travaille vraiment en lien avec les partenaires. Et on propose voilà, des choses pour que la musique classique puisse parler à tout le monde. Et on les invite évidemment à venir au concert. Il y a une politique tarifaire dans ces cadres-là qui est appliquée.
Thibaut, est-ce que vous avez des retours sur la façon dont vous perçoivent les étudiants ou les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec ce milieu en général ? Est-ce que la musique classique n'a pas toujours ce problème d'image de culture un peu élitiste ?
Il y a effectivement des a priori sur la musique classique. C'est pas pour nous, on ne connaît pas forcément. Après, je pense que c'est ça, il faut sortir... Faut sortir de ces clichés-là. Ça, c'est une musique qui parle à tous, qui fait appel aux émotions. Quand on voit, par exemple, à la sortie du concert étudiant, les nombreux retours, on aime bien en fait se positionner à la sortie, écouter un peu ce qui se dit à la sortie du concert, et les retours sont ultra positifs. C'est des étudiants qui reviennent de plus en plus nombreux ensuite le reste de l'année. Et puis après, pour les autres, les autres actions, on a des retours directs ou via des questionnaires, etc. Et puis de toute façon, on va dire ce qui est plus parlant, c'est de voir les gens revenir le reste de la saison.
Morgane Barra, comment vous êtes tombée, entre guillemets, justement, dans la musique classique ?
Alors moi, en fait, la musique classique, ça fait très longtemps que je la pratique, parce que je suis violoniste à l'origine. Là, je viens de rejoindre l'ONPL depuis très peu, en fait, à vrai dire. Mais je pense que la musique classique, c'est aussi de la musique qu'on entend dans les pubs et dans un certain nombre de choses. Et donc, on est déjà, en fait, familiarisé avec ça, sans même avoir parfois été confronté à un orchestre, à un concert symphonique. Mais après, les orchestres, on les connaît. Et puis maintenant, dans les chanteurs et dans les musiques actuelles, il y a énormément d'appels aux orchestres symphoniques qui est fait.
Baptiste Gélan, vous nous avez dit que voilà, vous appréciez la musique classique. Même question, vous êtes tombé comment dedans ? Peut-être que c'est la musique classique qui est venue à vous, finalement ?
Alors, j'ai la chance d'avoir fait partie, quand j'étais au collège, donc ça remonte, de ce qu'on appelait une classe orchestre. Et donc, c'était à Goron, dans le Nord Mayenne. Et je me suis mis au tuba. Et depuis, j'ai arrêté, c'est dommage. Mais voilà, c'est peut-être certainement ça qui m'a donné si goût à tout ce qui était cuivré, on va dire.
Alors, Baptiste Gélan, vous organisez le mercredi 25, votre soirée des étudiants. Donc, il y aura des ateliers de théâtre, de la danse, un spectacle. Puis, dans une seconde partie, vers 21h30, si tout va bien, parce qu'on sait qu'il y a souvent du retard sur ce genre d'événement. Donc, si tout va bien, vous organisez voilà, des concerts avec notamment le collectif Solid Records, avec Zenzile. Première question, pourquoi faire une soirée étudiante un mercredi ?
Alors, pourquoi un mercredi ? Moi, je pense tout simplement, je n'ai pas choisi la date. En tant que stagiaire, je pense qu'on ne peut pas choisir une date, quoique. Je pense que c'est tout simplement parce que la Mélancolie des Dragons était prévue cette date-là et que c'est ce spectacle-là qu'on voulait faire découvrir aux étudiants. Et je pense que c'est pour ça que ça se passe un mercredi.
Alors justement, la Mélancolie des Dragons, dans le communiqué de presse qu'on a reçu, on l'a qualifié d'un spectacle légèrement déjanté. On peut en savoir un petit peu plus ou justement cet aspect mystérieux, c'est fait exprès ?
Alors moi, je n'ai pas vu le spectacle. Par contre, j'en ai entendu que du bien. Ça raconte l'histoire d'hard rockers. Donc déjà, rien que l'histoire est assez déjantée. Ce sont des hard rockers qui tombent en panne avec un parc d'attractions dans leur coffre. Donc, ils tombent en panne dans la forêt et ça commence comme ça. Voilà.
Thibaut ?
Alors, il y a de plus en plus de soirées quand même électro ou à thème au Bar du Quai, notamment, qui s'adressent aux étudiants. Est-ce que le Quai, du coup, est suffisamment connu ou est-ce qu'il y a besoin encore d'actions particulièrement à destination des étudiants pour les attirer ?
Moi, je pense qu'il en faut parce que, par exemple, quand je suis allé voir les étudiants sur le campus de Belle Baye pour leur parler de cette soirée-là, du mercredi 25 novembre, qui était organisée pour eux, en fait. eh bien, beaucoup ne connaissaient même pas la structure, en fait. Donc je pense qu'il faut continuer à organiser ce genre de choses pour que, ouais, pour que les étudiants savent ce qui se passe vraiment sur Angers et qu'il y a la possibilité aussi d'avoir accès à cette culture-là.
Et au niveau de la programmation, est-ce qu'il y a une volonté particulière de faire appel à la scène locale avec Solid Records ou avec Zenzile ?
Ah bah oui, totalement, ouais. Ouais, ouais. Après, pour ce qui est en dehors de la soirée étudiante, pour ce qui est de la programmation, tout est fait pour essayer de faire venir toutes les tranches d'âge dans un même spectacle. Donc voilà.
Anaïs Joyot, Morgane Barra, ça vous donne envie, ce type de soirée, sortir un peu justement de l'univers du classique ?
Ah bah oui, ça donne envie. En plus, la programmation, elle est vraiment géniale. Le quai, c'est un endroit, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas facile hein, de toucher les étudiants, de les sortir de leur quotidien. Après, on a la chance sur Angers d'être plusieurs structures culturelles, d'avoir une vraie programmation qu'on leur dédie. Et c'est une chance qu'ils doivent saisir.
Morgane Barra, vous connaissiez, vous êtes plutôt familière du bar du quai ou pas du tout ?
Alors pas du tout, comme je disais, je viens d'arriver à Angers en fait, donc je connais pas encore. Donc ce sera très certainement l'occasion d'y aller.
Thibaut, tu as encore une question pour Baptiste Gillon ?
Oui, notamment dans le programme, vous parlez d'une battle entre étudiants. Est-ce qu'on peut avoir des détails, comment ça se passe exactement ?
Alors cette battle, en fait, on a décidé de l'organiser. Au début, on ne savait pas trop si on devait faire une espèce de blind test ou un battle. On s'est vite rendu compte que les gens étaient plus intéressés par un battle. Donc là, on a deux DJ qui vont s'affronter. Pourquoi pas trois ? Si par exemple, il y a des DJ qui écoutent et qui sont intéressés pour participer à cette battle, ils peuvent très bien se présenter à la billetterie du quai ou à l'accueil pour avoir des renseignements. Donc voilà, c'est deux DJ qui vont s'affronter et puis c'est le public qui décidera. Un peu comme les shows à l'américaine qu'on voit au rap, ce sera sur... ceux qui feront le plus de bruit désigneront le vainqueur. Voilà.
Donc, à l'applaudimètre, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Anaïs Joyot, Morgane Barra, c'est imaginable de faire une battle de classique ?
pourquoi pas, ça peut... Je sais pas, en fait, ça s'est jamais fait. C'est une idée. Je pense qu'on peut en parler à Pascal Roffet, il sera ravi. Non, mais il est très friand des nouveaux projets, de nouvelles propositions, mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi pas ?
Ça peut-être attirer les étudiants. On ne sait pas présenter comme ça.
C'est une idée. On va
lui soumettre. Peut-être collaborer avec le quai et puis le NPL.
Voilà, vous voyez une association qui est en train de se faire en direct sur le plateau. Une question simple mais facile. Comment on peut justement retrouver les informations, Anaïs Joyot et Morgane Barra, sur le concert de l'ONPL ? Comment les étudiants peuvent justement avoir un tout petit peu plus d'infos ? Vous avez un site internet, je suppose ?
Oui, on a un site internet www.onpl.fr. On a aussi une page Facebook, Twitter, Instagram. On est présent sur les réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, vous pouvez retrouver pour les étudiants, le plus simple, c'est qu'ils aillent directement sur les points de vente. Donc, dans les restaurants universitaires, c'est des lieux qu'ils fréquentent, à la cafette aussi de l'UCO. Donc là, ils trouveront les infos, ils pourront acheter leur place directement.
Et vous êtes présent sur tous les campus ?
On est présent sur tous les campus.
C'est bon à signaler. Même question, Baptiste Gélan, pour avoir plus d'informations ?
Alors pareil, sur le site internet que je ne connais pas par cœur, malheureusement. Il suffit de taper le quai sur Google, le quai Angers, et puis c'est facile à trouver. Et puis on peut tout simplement se présenter à l'accueil dans le forum, où il y a souvent énormément d'expositions, ce qui est agréable. Et on peut demander à l'accueil sur la programmation. Il y a même les petits livrets à l'accueil, là. Donc voilà.
C'est ça, l'avantage d'ailleurs du bar du quai, c'est que finalement, c'est une structure un peu particulière. Quoi. On ne va pas juste dans un bar, il y a tout un complexe autour.
Ah bah oui, c'est ça, c'est une énorme structure culturelle. Il y a deux théâtres, il y a une école de danse, il y a ce grand forum qui est aménagé pour les expositions. Il y a plein de choses, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est vraiment intéressant. Quand je suis arrivé là-bas en septembre, je suis un peu tombé des nues, on va dire.
Très bien. Eh bien, si vous voulez vous aussi tomber des nues, allez au bar du quai et évidemment, faites un tour au concert étudiant de l'ONPL. On vous le conseille. C'est quand même très sympa de diversifier un peu ses horizons musicaux. Chose que l'on va faire tout de suite en écoutant IPA avec la chanson Bushmills. We'll be right back. vous êtes toujours... Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, vous êtes toujours dans le sous-marin, c'est la première semaine du sous-marin et tout se passe bien. Tout de suite, nous allons vous diffuser une interview réalisée la semaine dernière avec la compagnie Métis. Et oui, nos Angevins s'exportent et présentaient aujourd'hui d'ailleurs leur pièce RPG 14 ou Le jeune homme et la machine à tuer au Festival Voilà de Londres, un festival francophone et francophile. Marc Béziot et Nicolas Berthoud, bonjour.
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 Vous êtes respectivement auteur et metteur en scène de la pièce RPG 14 proposée par la compagnie Métis. On rappelle que cette compagnie a été créée en 97 et que votre travail est axé sur la compréhension de la société actuelle. Vous essayez de décrypter les mœurs, d'interroger le quotidien dans un objectif pédagogique. C'est bien résumé ?
Oui, c'est bien résumé. En toute humilité, on essaye d'interroger. En tout cas, on essaye de... Nous vivons dans notre société contemporaine. On essaye, avec nos moyens, d'y apporter l'échange, le débat. Voilà.
Alors, vous présentez mercredi 4 novembre votre spectacle à Londres, dans le cadre du festival Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement le pitch du spectacle ?
Marc, comme tu es auteur.
Le pitch du spectacle, alors, en une phrase, résumer le spectacle... c'est l'histoire d'un jeune homme contemporain qui joue aux jeux vidéo et qui se trouve tout d'un coup confronté à des personnages virtuels, hein, des sortes d'ectoplasmes, alors on appelle ça des avatars, qui viennent le bousculer dans ses certitudes et dans sa vision du monde.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose.
J'ajoute juste effectivement que dans le pitch, ce jeune homme est interpellé au départ par des avatars, mais ensuite c'est vraiment toute la technologie, mais ça, parce que c'est un point essentiel après pour le peut-être le débat qu'on aura. En tout cas, c'est toute la technologie actuelle qui va se mettre en branle pour lui raconter l'histoire de cette grande guerre.
Alors, vous êtes parti, je suppose, du centenaire de la commémoration. Vous avez choisi de vous emparer de ce thème. Ça s'est fait comment ?
C'est un travail qu'on a commencé il y a très longtemps, ce travail sur la mémoire. On l'a débuté en 2009, je crois. Enfin, le spectacle a été lancé en 2009, mais on a commencé à travailler là-dessus en 2007, en travaillant sur la guerre d'Algérie, en travaillant sur un spectacle qui s'appelait Babel Porte. On avait un objectif justement de mettre en perspective les différentes mémoires conflictuelles qui s'exprimaient à propos de la guerre d'Algérie. On a poursuivi ce travail avec un autre spectacle qui s'appelait Abdeslam l'oublié, qui interrogeait toujours la mémoire coloniale française, mais là en s'occupant des tirailleurs étrangers qui faisaient partie de l'armée française dans les années 30 jusqu'au dans les années 60. Et puis, on a poursuivi ce travail, donc effectivement, avec RPG 14, qui lui s'est occupé de la guerre de 14. Alors, il y a eu effectivement l'opportunité du centenaire, mais ça s'inscrit dans une démarche qui est plus ancienne et qui est la nôtre depuis de nombreuses années.
Et du coup, l'angle que vous avez choisi pour aborder ce thème, ça tourne autour de la jeunesse. C'est très important pour vous, de manière générale, de parler aux jeunes et que la mémoire collective soit aussi appropriée par les jeunes.
Alors c'est très important parce que pour nous, le théâtre, c'est pas un simple divertissement, c'est pas uniquement fait pour amuser les foules, mais ça a aussi un rôle social, ça a aussi un rôle citoyen dans la société.
C'est un rôle politique.
Un rôle politique, oui, tout à fait. Donc cette appropriation de la mémoire, cette appropriation de la connaissance historique, ça fait partie de cette capacité qu'on peut avoir à penser le monde. Hein. Donc le théâtre, il rentre dans cette optique-là.
Alors, RPG 14, on va peut-être expliquer le titre. Vous allez peut-être nous expliquer le titre et ça va sans doute faire écho justement au fait de parler aux jeunes.
Alors, RPG 14, qui n'est pas le titre en entier, le titre en entier, c'est RPG 14 ou Le jeune homme et la machine à tuer.
Tout à fait. Alors, c'est sûr, vaut mieux le préciser.
Pour ce qui est du RPG, on a toujours avec Marc l'habitude d'essayer de trouver un titre qui fait mouche et un titre qui interpelle et sur lequel il va y avoir des plusieurs entrées en fait. Donc le RPG, il est le role-playing game que tous les jeunes connaissent et il est aussi le fameux lance-roquette que tous les jeunes connaissent aussi via les jeux de guerre, mais que les plus anciens vont mieux connaître eux.
Ouais, mais qui vont appeler bazooka, mais c'est ça, c'est un lance-roquette, je ne sais plus comment ça se dit en anglais.
Et donc, c'est un spectacle qui a quand même quelque chose d'un petit peu particulier dans le théâtre, avec beaucoup de travail de vidéo et beaucoup de travail de lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix de mise en scène ?
Alors, le choix de mise en scène, il participe, comme le disait Marc tout à l'heure, à tout l'historique de la compagnie, c'est-à-dire comment on va essayer de faire évoluer le théâtre vers ce que j'appelle, moi, le spectacle vivant, plutôt. Et donc, comment on va essayer de prendre de multiples arts pour les faire se rencontrer. Donc, il y a eu un certain temps où j'ai travaillé avec des chorégraphes, avec des danseuses. Et puis, au fur et à mesure, s'est intégré, depuis Babel Porte, notamment, la vidéo. Parce que c'est un outil qui est forcément actuel, qui parle aussi à la jeunesse, beaucoup plus que le plateau réel. Et quand on voit du coup ce que donne RPG avec là vraiment un dialogue entre des avatars,
des écrans,
et un comédien seul sur le plateau, ça donne un objet assez particulier. Et le public plus jeune
semble accrocher
et semble parfois aussi décontenancé parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de théâtre.
Pour eux, le théâtre, c'est pas... Il faut avouer que le théâtre, ce n'est pas le premier lieu culturel dans lequel se précipitent les jeunes gens. Il faut être clair, ils vont au concert, mais ils vont rarement au théâtre. Et le théâtre, pour eux, c'est quelque chose de poussiéreux, souvent. Alors, c'est peut-être dû... aux pièces qu'ils ont vues dans leur cadre scolaire, mais c'est le répertoire, etc. Donc c'est un peu lourd et c'est pas forcément pour eux, c'est pas des lieux où ils vont. Et quand ils découvrent ce spectacle-là, ils s'aperçoivent que le théâtre, ça peut avoir des choses à leur dire, que ça peut être un spectacle aussi. Parce que j'ai dit que le théâtre, c'est pas que du divertissement, mais ça c'est aussi un spectacle, hein. Ça peut être aussi divertissant, sans être uniquement divertissant. Et quand ils découvrent ce spectacle-là, pour eux, ça les interpelle. Ils disent « Ah, mais finalement, le théâtre, c'est ça aussi. »
Alors, mercredi 4 novembre, ce sera loin d'être votre première représentation. Hein. On peut dire que pour l'instant, ça a vraiment plutôt bien marché, ce spectacle. Par contre, ça va être la première fois qu'il sera surtitré, puisque on rappelle que le festival Voilà est un festival de francophiles, francophones, à Londres. Ça vous fait un peu peur ? Vous appréhendez ou vous êtes très confiant sur cet aspect-là du surtitrage ?
Alors, ça a fait peur avant de faire les surtitres, parce que c'est un travail phénoménal. C'est Simon Astier qui a réalisé ce surtitrage. Lui-même qui a réalisé les avatars. Et c'est tout. Alors, je ne vais pas parler technique, lui saurait mieux le faire que moi, mais c'est tout un problème d'export, de fichiers, etc. Donc, c'est un très, très long travail.
Il y a un travail aussi antérieur qui est celui de faire traduire le texte. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on a usé 3 traducteurs, je crois. Puisque, on a eu une première traduction qu'on a fait relire, qu'il a fallu encore un petit peu modifier, affiner, etc. Et on pourrait continuer. Une traduction, c'est quasiment un travail... un travail quasi impossible, puisqu'il y a toujours des nuances qu'on n'aura pas. Et il faut se dire à un moment, bon, allez, ça correspond, allez, et on fait confiance, quoi.
Thibaut, tu avais une question également.
Oui, dans le cadre de votre voyage à Londres, du coup, vous allez présenter la pièce. Vous allez également intervenir dans un collège et lycée français, lycée Charles de Gaulle. Du coup, on revient sur l'interpellation de la jeunesse et l'échange. C'est un travail que vous avez déjà fait sur d'autres pièces. Vous allez au-delà du théâtre simple.
Oui, quoi qu'il arrive, sur chaque spectacle, en fait, on fait un travail en amont et en aval du spectacle. C'est ce qu'on appelle le travail de diffusion culturelle.
Oui, puis qui fait partie de l'ADN de la compagnie aussi, puisque non seulement on crée des spectacles, mais on a aussi toute une partie de la compagnie, des comédiens qui travaillent régulièrement avec nous, qui interviennent en milieu scolaire. Nicolas, d'ailleurs, le fait aussi. On fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire, et pas uniquement sur nos propres spectacles. On intervient aussi dans le cadre des classes théâtre, des choses de ce genre-là. Et c'est une vraie volonté. Et les spectateurs, il faut aller les chercher, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut leur donner envie. Donc, quoi de plus évident que d'aller les chercher dans les écoles où ils sont, quoi. Je pense, moi, quand on travaille ensemble, on a des questionnements, et le spectacle, il vient pas forcément comme une réponse aux questionnements, mais comme une mise à plat et, ou une, peut-être une complexification de la question posée, quoi. C'est, on pose une problématique qui s'avère être une problématique un petit peu plus complexe, donc on donne pas forcément des réponses, on a une vision, mais qui n'est pas forcément une réponse, hein, qui montre plus souvent les enjeux, la complexité de l'interrogation, plus que bah, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est pas du prêt à penser, hein. C'est du prêt à réfléchir.
Très jolie expression. Alors, Marc Béziot et Nicolas Berthoud, on rappelle que vous allez présenter le spectacle le 4 novembre à Londres, dans le cadre du festival Voilà. Comment se sont noués les contacts? Comment vous vous êtes retrouvés à aller faire ce spectacle en Angleterre?
Tout simplement par candidature. Alors, on a eu quand même un petit point de départ, puisqu'on devait aller jouer au tout début à Wigan, qui est la ville jumelée à la ville d'Angers. Bon, il s'avère que techniquement, on a eu des petits soucis, donc on ne pourra pas aller sur Wigan. Mais malgré tout, on ne souhaitait pas uniquement aller que sur Wigan, et donc essayer de réaliser une tournée en Angleterre. Une fois en Angleterre, autant essayer de faire une tournée. Donc c'est un peu compliqué, hein, de mettre en place les choses. On a contacté les villes les plus proches, qui sont Manchester et Liverpool, par exemple. Il s'avère que là, ils n'ont pas forcément de festival francophone, donc c'est beaucoup plus compliqué d'intégrer des théâtres anglophones. Et puis on a Anaïs Chauveau, qui est notre chargée de diffusion, est tombée sur le festival Voilà.
Thibaut. Oui, j'ai cru voir qu'il y avait aussi une réalisatrice qui allait vous accompagner là-bas pour faire un documentaire sur ce voyage.
Tout à fait.
Oui, Karen Rabalan. Alors c'est Karen a réalisé le teaser en fait de RPG que vous pouvez voir sur le site de la compagnie.
www.compagniemétis.fr.
Et effectivement, elle, avec sa boîte de production qui s'appelle Miska Film, elle a souhaité nous accompagner lorsqu'elle a appris qu'on allait en Angleterre pour tourner un documentaire. Je ne sais pas de combien de minutes, je pense qu'elle non plus, elle ne sait pas encore. Je pense que ça sera en fonction de tous les rushs qu'elle va pouvoir avoir. En tout cas, c'est très précieux pour nous, et c'est précieux aussi pour le théâtre français, je pense, de découvrir comment une compagnie tourner en Angleterre.
Surtout une compagnie angevine, puisque nous, on n'est pas une grosse compagnie parisienne, on n'a pas de tourneur. Donc, ce travail-là est aussi intéressant pour d'autres compagnies comme nous, hein, sans doute.
C'est ça, exactement.
Qui travaillent, qui sont des compagnies professionnelles comme nous, mais qui n'ont pas souvent ni les moyens, ni les ambitions, ni les opportunités de se retrouver à l'étranger.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Marc Béziot et Nicolas Berthoud. On vous souhaite évidemment le meilleur, de représenter Angers fièrement à Londres, et puis une longue vie à RPG.
Merci. Oui. Qui reviendra d'ailleurs au mois de janvier, le 8 janvier à la salle Claude Chabrol sur Angers.
Voilà, donc pour tous ceux qui auraient loupé l'année dernière RPG, eh ben, ce sera le moment de retourner faire un petit tour. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et puis, on se retrouve très bientôt.
Avec plaisir.
Voilà, on félicite la compagnie Métis d'être partie à Londres, d'avoir exporté son spectacle. Et puis, on vous donnera très très bientôt des nouvelles, quand même, savoir un peu comment ça s'est passé, si le surtitrage est bien passé, si les Anglais ont tout compris. En attendant, nous, on se fait une petite pause musicale avant de revenir pour les dernières minutes d'émission. On s'écoute Mikey avec Don't Break the Shadow of My Love. Vous êtes toujours sur campus et toujours à l'écoute du sous-marin. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique musicale de Camille. Oui, eh bien Camille, bonsoir. Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va aujourd'hui, en forme, on est
oui,
bien ?
Oui, ça va, je suis bien, bon. Tranquille.
Alors, tu es notre spécialiste métal, d'ailleurs tu nous as beaucoup manqué hein, hier quand on a eu en interview l'association Chrome.
J'ai cru comprendre ça, ouais.
Bah oui, on a parlé d'Angers Likes Metal, alors forcément tu n'étais pas là, tu nous as manqué. Tu t'es un petit peu adouci là aujourd'hui, tu vas nous parler de shoegaze. Alors qu'est-ce que c'est le shoegaze ?
Ouais, enfin, adouci, tu vas rapidement comprendre que pas tellement que ça, parce que cet été, j'ai voyagé dans les mers plus ou moins déchaînées du métal. Et dans mon entreprise, un soir, comme ça, j'ai cru dériver à 100 000 lieues des racines de musique extrême vers un style totalement différent qui est le shoegaze. Mais en accostant, oui, j'aime bien cette métaphore filée, donc je vais continuer encore un petit peu.
Vas-y, pas de soucis.
Je me suis aperçue que non, j'étais bien restée dans ces océans aux sonorités tumultueuses et fracassantes. En fait, je suis simplement tombée sur le fruit d'une union extra-conjugale entre la brutalité du métal et la douceur du shoegaze. À ce moment, je sais que les quelques métalleux qui m'écoutent ont déjà deviné de qui il s'agit. D'Alceste. Oui, Alceste, ou comment délaisser petit à petit les codes du métal pour une musique limite hypnotique qui aurait pu passer aux côtés de Jefferson Airplanes et Jimi Hendrix à Woodstock. Parce que oui, selon moi, l'avenir est là. Après avoir appris le solfège, on apprendra aux guitaristes à utiliser des pédales d'effet et à ne pas jouer les rockstars, non, mais à regarder leurs pieds. C'est du moins ce qu'a appris à faire Alceste qui en live ne regarde que les 40 pédales d'effet qui gisent à leurs pieds.
Attends, tu vas nous dire que les mecs là, en concert, ils regardent absolument pas le public, ils ont le regard fixé sur leurs pieds quoi.
T'as tout à fait raison, ils ne regardent rien ni personne, parce que bon, les membres d'Alceste vivent totalement leur musique. Ils sont timides, doux et totalement habités par la passion. Et la musique, autant en studio qu'en live, détient la même sensibilité, la même beauté.
Ouais, c'est sympa ça, des mecs vachement communicatifs. Bref, l'évolution du groupe, concrètement, elle se manifeste comment ?
Bah, tout simplement dans la technique, le son, les ambiances. Entre l'EP, nommé Tristesse Hivernale et Shelter, le groupe a mûri. Son style s'est petit à petit affirmé. Finalement, on est passé de guitare rapide à des riffs de plus en plus doux, lents et aériens. Et la voix, auparavant criée de Stéphane Pau, alias Neige, devient de plus en plus claire et suave. D'ailleurs, oui, parlons-en, tiens, la voix. Elle n'a jamais vraiment été mise en avant, c'est vrai, mais elle finit aujourd'hui par être totalement sous-mixée. D'ailleurs, là encore, voici un concept nouveau hein, dans mes petites oreilles. Car ici, comme pour faire planer davantage, la voix fait totalement partie de la musique. Elle est instrument et pas voix star. Et puis, comme point d'honneur, les paroles qu'on croirait empruntées à Baudelaire ou Rimbaud.
Baudelaire, Rimbaud, non, ça va, t'exagères absolument pas, quoi.
Mais pas du tout, Pierre-Louis, je te jure. Bon, enfin, ok, peut-être un tout petit peu. Mais les paroles elles-mêmes sont un concept, puisqu'elles évoquent les rêves de Neige quand il était enfant. Après ça, que peut-on rajouter ? Le concept est parfait, la musique planante, ça change de ce qu'on écoute d'habitude. Bref, à chaque sortie d'album, Alceste surprend en se rapprochant toujours un peu plus de la notion de beauté à l'état pur. Alors voilà, après tout ce blabla de fangirl, j'espère que vous aurez au moins la curiosité d'aller écouter, un peu. Tapez Alceste sur YouTube ou Deezer, je ne sais quoi. Prenez un titre au hasard, vous tomberez à coup sûr sur un chef-d'œuvre. Bon, au pire, vous savez quoi ? Au final, écoutez tout. Et après, seulement après avoir écouté la démo, l'EP, les 4 albums et autres captations live, vous aurez peut-être une petite idée de ce qu'est l'univers Alceste.
Merci beaucoup Camille. Anaïs Joyot, Morgane Barra, vous connaissiez le shoegaze, vous connaissiez Alceste ou pas du tout, ça, c'est pas du tout votre univers ?
Eh ben non, moi je connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est normal.
Et alors, des mecs comme ça qui ne regardent pas le public, qui sont les yeux rivés sur leur pédale d'effet, ça vous parle ? Enfin voilà, ça vous intrigue peut-être ?
Bah m'intrigue, non, ça m'intrigue pas, moi je trouve ça plutôt, enfin je sais pas, j'aime bien, je trouve ça plutôt pas mal comme concept, ouais.
Ça change un peu Morgane Barra ?
Bah, je pense que c'est une façon de communiquer avec le public qui est étonnante, mais aussi je pense que ça montre qu'ils sont vraiment dans leur truc et ça donne envie de les écouter du coup, de s'y plonger dedans.
Thibaut, notre reporter de choc, lui qui connaît tout, tu connaissais Alceste forcément ?
Non, pas du tout.
Oh, tu me déçois beaucoup.
Je t'ai fait découvrir quelque chose de génial.
Ouais, bah, j'irai écouter ça avec plaisir.
Très bien.
Alors, Valentin est entré dans le studio, et oui, et oui.
Salut Pierre-Louis.
Salut Valentin. C'est le retour, ce soir, le grand retour de l'équipe de Ta Gueule Coubertin.
Et ouais, le retour attendu.
Bah oui, forcément, ils ont sorti leur blanche basket, leur plus beau jogging à pression, ils sont chauds patates. Première question avant que tu nous présentes un peu ce qui se passe. Toi, Alceste, le Shoegaze, ça te parle ou...
Bah, j'ai juste appris que Baudelaire et Rimbaud étaient bons en métal, mais à part ça, non, je connaissais pas du tout, tu vois.
Bon, voilà, on voit que ta culture musicale est très développée.
Ah, c'est le sport à fond.
Bon, et d'ailleurs, dans le sport, vous nous parlez de quoi ce soir, les gars?
Alors, on va parler de Coupe Davis, de volley, d'Angesco, on est un peu obligé, on va dire. Et on a une petite surprise en début d'émission aussi. Donc faut... je te le dis pas pour l'instant, mais je sais que tu vas écouter avec impatience.
Non, mais c'est bien le teasing, il faut. Bon, une petite question un peu perso. Toi, le supporter de Marseille, je suppose que t'étais content. Défaite du PSG hier, 1-0 sur le terrain du Real.
Bah moi, je suis supporter de Marseille, mais d'abord supporter du football, tu vois. Donc quand une équipe française perd, c'est pas non plus la joie, mais à la côté, j'étais un peu réjoui quand même. Un peu de satisfaction, moi.
Ah, c'est toujours ça, le cœur des Marseillais, mais c'est incroyable. Hein. Ils peuvent pas être à fond pour une fois, juste derrière les clubs français, relever un peu l'indice UEFA, tout ça. Bref, on vous laisse en discuter. Les filles, Anaïs Joyau, Morgane Barra, le sport, ça vous parle? C'est pas votre truc?
Je suis de Saint-Etienne, donc je crois que j'ai pas trop le choix.
Ah, effectivement.
Donc la SS, et je vais pas me faire un ami là-bas, d'autre côté du studio, je crois.
Ouais, j'ai aucun problème avec les verts, moi, c'est pas grave. Moi aussi, je suis de PSG que j'aime pas.
Donc c'est qui les meilleurs, forcément?
C'est nous.
C'est les verts. Anaïs Joyau, vous, le foot, le sport
Non, moi, le foot, le sport, je suis pas une grande sportive, voilà.
Même pas, je sais pas, une petite passion, un truc, pas de rapport avec la musique classique, l'hymne de la Ligue des Champions quand même, c'est beau.
Non mais ceci dit, on a enregistré pour la petite histoire à l'ONPL l'hymne du FC Nantes en version symphonique. C'est nous qui avons enregistré l'hymne du FC Nantes.
Ouais, c'est quand même exceptionnel, moi je le connais pas du tout, hein. je vous le dis, je sais pas si
c'est
beau.
Faut l'écouter au moins pour les paroles.
Et alors, où est-ce qu'on peut l'écouter?
Vous pouvez l'écouter du coup maintenant lors des matchs.
Ah, je crois que c'est « Allez Nantais, voilà, allez Nantais jouer, tous savez-vous les jaunes et verts ».
Et c'est exactement ça, et aussi on a
peut-être
enregistré
en
il y a,
ouais,
il y a un mois,
je ne vous permets pas.
Il y a un mois on a enregistré aussi l'hymne des sportifs ligériens, donc l'hymne régional des Pays de la Loire sera...
Ça me parle un peu plus pour nous.
A aussi été choisi par un jeune compositeur et a été enregistré par l'ONPL.
Eh bien, Anaïs Joyau, Morgane Barra, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci pour nous avoir invités.
Merci.
On remercie également Baptiste Gélan qui a dû nous quitter, hein, un homme très très occupé. Et puis c'est déjà l'heure de se quitter, on va passer la place à nos amis les sportifs. Voilà, on remercie évidemment notre grand reporter Thibaut, merci Camille pour ta chronique. On n'oublie pas Isabelle à la réalisation qui est revenue spécialement de Barcelone pour nous et Étienne à la programmation toujours exceptionnelle. On se retrouve demain, même heure, même fréquence pour un nouveau sous-marin. Salut!
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.